Odyssée Orient, pour aider deux associations, trois jeunes de 25 ans, Guillaume, Guillaume et Théo, ont effectué un périple de 18 000 km en 4L pour aller de Bruxelles au Cambodge.
On a fait la France, donc Bruxelles, France, Italie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Croatie, Grèce, Turquie, ensuite la Géorgie. Nous sommes restés à Tbilissi pendant 3 semaines. Nous sommes passés par la Russie, le sud de la Russie, pour arriver au Kazakhstan, donc Asie centrale, Ouzbékistan, Kirghizistan, ensuite Mongolie, puis après Vietnam, donc Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge.
Le nom de leur défi, Odyssée Orient, pour soutenir deux associations, pour un sourire d'enfant et une lettre, un sourire. Aujourd'hui, nous allons voyager avec trois aventuriers, Guillaume, Théo et Guillaume, qui ont participé à un magnifique voyage, l'Odyssée Orient. Ils vont nous en parler dans quelques instants. C'est un périple de 18 000 km. Ils avaient déjà réalisé un autre challenge, on peut dire, un Marseille-Bruxelles à pied, sans, en stop et sans argent. Donc c'est vraiment... des aventuriers que nous avons avec nous aujourd'hui. Alors, je vais tout simplement d'abord leur demander de se présenter. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, d'où venez-vous et quel est un peu votre parcours ?
Alors, moi, je viens de Bruxelles et j'ai étudié le droit en Belgique.
Et vous avez ?
J'ai 25 ans.
Alors moi, bonjour, je m'appelle Théo. Je viens notamment du Pays Basque et de la région béarnaise. Et j'ai grandi un petit peu à Bruxelles. Et j'ai 25 ans et je fais des études de. Enfin, j'ai étudié les relations internationales.
Et bonjour, Guillaume, français résident à Bruxelles, j'ai des attaches au Pays Basque et je fais des études dans le cinéma.
Vous avez parcouru 18 000 km, vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi et comment. Mais avant, peut-être, vous avez les trois, je crois, un lien avec le scoutisme.
Oui, effectivement, nous avons tous les trois été chefs scouts durant de longues années.
Et donc, ça vous a initié, on peut dire, à l'aventure et à la notion de service, peut-être, que vous avez voulu développer à travers vos aventures, vos voyages.
Oui, c'est exact. Donc, on a cette volonté d'être proche de la nature, cet amour pour être autour d'un feu au milieu des bois et la fraternité. Donc... Et aussi, évidemment, le service, se mettre, être disponible pour aider l'autre et ceux qu'on rencontre.
Théo, comment est né ce projet Odyssée Orient ?
Donc, comme vous l'avez bien rappelé, on a d'abord fait une expérience un petit peu rocambolesque, espèce de voyage un peu dans l'aventure entre Marseille et Bruxelles. Et puis ensuite, comme on l'a dit aussi, Guillaume vient de le dire, on a grandi autour du scoutisme en étant d'abord scout nous-mêmes et puis chef. Et puis on rêvait de quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait beaucoup de sens aussi. C'est pour ça qu'on a choisi deux associations qui nous accompagnaient pendant tout le voyage. Et de vivre cette belle et grande aventure, non pas la dernière, mais en tout cas une aventure qui changerait quelque chose dans notre vie à l'aube de nos 25 ans. Donc c'était vraiment le moment de marquer le coup. Voilà.
Vous, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez organisé ce voyage de 18 000 km au Cambodge ?
Alors, la préparation de ce voyage nous a pris un an environ, et le but était tout simplement de déjà préparer l'itinéraire, donc savoir par quelle zone on allait passer, en sachant que tout peut changer du jour au lendemain au niveau géopolitique. Il fallait trouver l'itinéraire, il fallait trouver... on avait déjà les deux associations en tête, mais donc c'est trouver une sorte de partenariat, comment on allait les soutenir, comment on allait les mettre en avant. Il fallait trouver un budget, donc on a fait une levée de fonds, on a essayé de convaincre les personnes de suivre ce projet et de leur dire qu'en fait ce projet avait un intérêt, donc c'était à peu près une sorte de mini-entreprise que nous avons créée pour ce projet.
Ça nécessite beaucoup d'argent de partir comme ça à l'aventure ?
Oui. Bon, traverser deux continents avec une voiture, ça nécessite quand même beaucoup d'argent. On était dans l'ordre de plusieurs milliers d'euros, bien sûr, et c'est conséquent comme budget.
Le but, c'était d'aider deux associations. La première, vous l'aviez déjà aidée lors de votre premier périple Marseille-Bruxelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces deux associations?
Donc, la première association, c'est Une Lettre, Un Sourire. Donc, ça a été créé en 2020 pendant le Covid. Et donc, l'idée, c'est que les jeunes écoliers, les jeunes de toute la France et de la Belgique, écrivent des lettres et elles sont envoyées dans les EHPAD en France pour les personnes âgées isolées. Et donc, le but, c'est de renouer ce lien intergénérationnel et de briser l'isolement. Ça, c'est la première association. Et la deuxième association, c'est Pour un sourire d'enfant, qui a été créée par un couple de Français dans les années 90. Et l'idée, c'est donc de sauver les enfants de la misère au Cambodge, de les sortir des bidonvilles pour les amener à une éducation, à un métier, et voilà, d'avoir une meilleure vie. Leur slogan, c'est de la misère à un métier. Voilà. Et donc, nous, notre projet, premièrement, c'était d'écrire des lettres pendant tout notre voyage à certains EHPAD en France et en Belgique pour garder un lien et pour pouvoir faire voyager les personnes âgées avec nous dans notre valise sous forme de bon baiser d'Istanbul, bon baiser du Kazakhstan, voilà. Et deuxièmement, pour un sourire d'enfant au Cambodge, c'était de récolter des fonds pendant tout notre voyage et d'arriver au Cambodge avec la voiture pour leur donner. Et donc voilà, on était un peu ce trait d'union souriant entre les personnes âgées en Belgique et les enfants au Cambodge. Et donc on s'appelait l'expédition souriante.
Vous allez nous raconter un peu comment s'est passé ce périple. Vous êtes parti quand? Et vous êtes parti, vous l'avez dit, en voiture. C'était quoi comme voiture?
C'était une Renault 4L F4, donc fourgonnette. Et nous sommes partis le 5 février dernier, voilà, de Bruxelles.
Et vous êtes revenu?
Donc mi-juillet, voilà, c'est très récent.
Alors, on commence par qui pour nous raconter le voyage?
Oui, donc on est parti donc à Troyes dans une toute petite voiture depuis Bruxelles. Donc la première partie du voyage, bah, c'était traverser assez rapidement l'Europe pour arriver aux portes de l'Asie à Istanbul. Donc on a dû s'acclimater à cette vieille voiture, comprendre un peu comment elle fonctionne. On a déjà eu des ennuis techniques déjà en Grèce où les amortisseurs se sont déchaussés, donc on a dû au milieu de nulle part, à la tombée de la nuit, réussir avec des lampes de poche remettre les amortisseurs en place. Mais on a réussi à arriver aux portes de l'Asie assez facilement, entre guillemets, donc à Istanbul. Et durant toute cette première partie de voyage déjà, on dormait sous tente ou bien chez l'habitant. Donc on était vraiment on se laissait guider par un peu la providence. Donc voilà, si on trouvait des gens qui étaient prêts à nous accueillir dans une ferme ou autre, eh bien, on dormait chez eux en échange d'un service. On est resté par exemple une semaine en Slovénie dans une ferme où on a participé aux travaux de la ferme en échange juste du gîte et du couvert. Et donc ça, c'était la première partie un peu en Europe.
Alors vous êtes parti en février, combien il a fallu de temps pour que vous arriviez à votre destination qui était le Cambodge?
Alors ça a mis environ 154 jours, oui c'est ça, donc 5 mois et des poussières. Ça a mis 154 jours, c'était un long voyage et comme Guillaume l'a dit, c'était un espèce de camp scout permanent, c'est-à-dire qu'on évitait les grandes villes, on évitait les zones touristiques, on évitait les hôtels. C'était vraiment l'idée de dormir sous la tente, d'être... un peu voyager un peu à la dure, à l'ancienne, si je puis me permettre. Et en fait, tout simplement, ça a été très intense. Il y a eu des moments plus joyeux, des moments moins positifs, parce que voilà, c'était compliqué, mais on essayait quand même de garder la tête haute, parce que c'était ça le but du projet aussi, c'était le sourire intérieur, notamment, qu'il fallait cultiver pendant tout le voyage, même si parfois il y avait des zones d'ombre à l'extérieur et qu'on pouvait se laisser abattre. Il fallait toujours garder cette espèce de lueur d'espoir, et ça nous a permis d'aller au bout. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, notamment, peut-être qu'on va pouvoir en parler plus tard, c'est que la 4L était un des moyens de transport qui était censé être le principal, puisqu'on devait donner la voiture à l'association. Mais malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au Cambodge avec la voiture, mais on pourra peut-être en parler plus tard.
Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, quand même, pour que les auditeurs se rendent bien compte de votre périple, c'est que vous nous disiez par quel pays exactement vous êtes passé.
Oui, alors, on a fait la France, donc Bruxelles, France, Italie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Croatie, Grèce, Turquie, ensuite la Géorgie. Nous sommes restés à Tbilissi pendant 3 semaines. Nous sommes passés par la Russie, le sud de la Russie, pour arriver au Kazakhstan, donc Asie centrale, Ouzbékistan, Kirghizistan, ensuite Mongolie, puis après Vietnam, donc Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge. Voilà.
On fait des kilomètres. Alors en 4L, vous avez dit donc c'était le moyen principal, mais pas que. En 4L, je vois que vous avez un grand gaillard là, donc vous étiez un peu serré quand même, non?
Alors c'est ça qui était le challenge, c'est qu'en fait, on le connaît, les auditeurs doivent sûrement s'imaginer la petite 4L savane. Donc nous, c'était une fourgonnette, donc la voiture de la poste, mais on est trois. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un siège passager derrière, on a rajouté une petite fenêtre sur la gauche. Ce qui faisait que, à première vue, c'était pas forcément le siège le plus confortable. Et en fait, en fin de compte, avec la rudesse des routes kazakhs, il se fait que la place derrière était un peu la place où on pouvait se reposer et se mettre un peu à l'abri de tout. Voilà, mouvement extérieur, c'était un peu un cocon et on faisait une tournante et ça permettait de voilà de prendre un peu l'air par moment et puis de reprendre le volant ensuite et voilà.
Guillaume a évoqué les aléas du voyage, par exemple en Grèce, avec vos problèmes de voiture. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport à ce qui vous est arrivé tout au long de ce périple?
Alors oui, notre plus gros ennui mécanique, ça a été au Kyrgyzstan, où après avoir traversé le désert dans le Kazakhstan et en Ouzbékistan, où le moteur a pris beaucoup de sable et donc a eu beaucoup de difficultés. Et donc, à un moment, le démarreur a cessé de fonctionner. Donc, on a dû le réparer avec un local qui est venu nous aider de lui-même. On n'a pas eu à demander, il est simplement venu nous aider. Et on a passé toute une soirée où il a commencé à y avoir des éclairs, il a commencé à pleuvoir. Et on était dans le moteur en train d'essayer de sortir ce démarreur. Puis, il nous a accompagnés le lendemain dans la ville pour essayer de le faire réparer dans des tout petits établis, vraiment, c'était assez incroyable. Et on a fini par réparer ce démarreur, donc ça, c'était assez incroyable. Et toujours au Kyrgyzstan, dans la montagne, la pompe à essence avait un peu de difficulté, et donc il a fallu siphonner l'essence pour pouvoir faire repartir le moteur, parce que la pompe à essence n'arrivait plus à envoyer du jus, donc voilà.
Et donc, pour rebondir par rapport à cette anecdote, ce que Guillaume n'a pas dit, c'est que comme il y avait trop d'oxygène dans le moteur, il fallait enlever l'oxygène. Et la pompe à essence ne fonctionnait pas à cause de l'altitude. Donc Guillaume s'est rendu volontaire pour aspirer lui-même l'essence, ce qui lui a valu quelques gorgées avalées. Et il était pendant 3 jours tout vert. On a cru qu'on allait le perdre, mais finalement ça s'est bien passé. Mais donc ça, c'est le genre d'anecdote qui nous arrivait. Et peut-être une dernière encore au Kyrgyzstan. Comme la voiture ne pouvait pas monter au-delà de 3000 mètres, à un moment donné, elle a juste cessé de fonctionner. Et donc, on a sorti les sangles, on a commencé à la tirer, à la tracter à haute altitude, sachant qu'il y avait un col à 3500 à passer, et on s'est bien rendu compte que c'était impossible. Et donc, on a commencé à faire du stop à des camions pour qu'ils puissent s'arrêter et éventuellement nous tracter. Et après 20 minutes, un camion tadjik s'est arrêté, et donc on a accroché les sangles à la voiture, et sur 500 mètres de dénivelé, le camion tadjik tout simplement nous tractait pour qu'on puisse arriver au tunnel au sommet puis pouvoir redescendre après sans difficulté.
Ça, c'est pour les problèmes techniques avec la voiture, mais est-ce que vous avez eu d'autres problèmes, je sais pas, par exemple avec les douanes, avec la police?
Oui, alors un problème que nous avons eu, déjà c'est frontière entre la Géorgie et la Russie. De base, nous souhaitions passer par l'Azerbaïdjan. En espérant que les frontières réouvrent chaque mois, on avait fait même une demande auprès du cabinet des ministres en Azerbaïdjan pour avoir une dérogation spéciale et traverser l'Azerbaïdjan par la mer Caspienne. Cela n'est jamais arrivé, donc on a dû faire une demande un peu de visa express pour la Russie, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc on a réussi à passer, mais ça nous a pris bien 3 semaines, donc voilà, comme je vous l'ai dit, à Tbilissi, en Géorgie, où nous sommes restés bloqués. Aussi, un autre problème, c'était entre la frontière kazakh et ouzbek. Donc c'est la frontière où nous sommes restés le plus longtemps, nous sommes restés environ 8 heures. C'est des frontières pas très bien organisées. C'est pas comme en Europe où il y a plusieurs files. Ici, il n'y a qu'une file. Les voitures sont triées et sont envoyées par petits groupes. C'est beaucoup plus lent. Et mon passeport, il y a 3 ans, est passé à la machine. Et donc, on ne reconnaît pas forcément mon visage sur la photo. Et donc, plusieurs militaires pensaient que ce passeport était faux. Donc, j'ai dû m'expliquer pendant plusieurs heures dans un bureau devant plusieurs Ouzbeks et leur expliquer que c'était un vrai passeport. Voilà, ce qui a valu un débat assez virulent qui s'est terminé sur le passage en Ouzbékistan.
Finalement, tout s'est bien terminé.
Oui, bien sûr.
Il y a la question aussi de la langue, puisque vous avez traversé plusieurs pays très différents. Comment vous avez fait pour pouvoir vous faire comprendre auprès des personnes que vous avez rencontrées dans tous ces pays ?
Alors, on essayait de parler en anglais quand c'était possible. Dans les pays européens, on arrivait en général à se faire comprendre, un peu d'italien, un peu d'anglais, par-ci, par-là. Après, on essayait toujours d'apprendre au moins quelques mots pour pouvoir toujours au minimum se faire comprendre dans chaque pays. Mais pour toute l'Asie centrale, on avait appris du coup un peu de russe, parce que toute l'Asie centrale, comme ce sont des pays de l'ex-URSS, ils parlent encore tous un peu russe. Et sinon, on avait un J'ai pas les mots, donc c'est un petit livre dans lequel il y a plein de dessins, et donc qui permet de se faire comprendre le plus facilement possible. Et c'est vrai, sinon, quand on avait aussi du réseau, on utilisait les traductions par internet, quoi. Mais c'est vrai que ça a donné des situations cocasses parce que ce sont des pays où sont des langues très imagées. Et donc, la manière dont ils parlent, quand la traduction se fait, ça ne peut pas toujours dire quelque chose. Par exemple, on a eu des phrases comme « Il n'y a pas de tronçonneuse dans ce bouquin ». Eh ben, ça ne veut rien dire, mais c'était assez étonnant. Donc, c'était pas toujours facile, même avec une traduction internet, de se faire comprendre. Mais avec les gestes, avec des sourires, avec des signes, on arrivait toujours au final à se faire comprendre et à s'exprimer.
Un mot sur la gastronomie. Vous avez mangé pendant 5 mois. Alors, quels sont les plats que peut-être que vous avez découverts et que vous avez le plus appréciés? Et puis peut-être, est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises?
Les plats qui nous ont vraiment marqués, je pense, c'était en Géorgie, c'était l'adjapouri, qui est un repas simple mais extrêmement bon. C'est une sorte de galette de pain dans laquelle un œuf est cuit avec du beurre. Et donc, c'est extrêmement nourrissant et donc ça nous a souvent ravi le cœur. Et aussi un repas qui nous a plus étonné, c'était en Mongolie, la soupe de gras avec des bouts de viande dedans. Ça, c'était vraiment le repas du camionneur qu'on partageait souvent dans les stations-service.
Ce que Guillaume oublie de dire, c'est que les bouts de gras et la viande, c'est de la viande de cheval. Voilà. Donc ça, effectivement, c'était assez étonnant. On en a beaucoup mangé et parfois sans qu'on le sache vraiment. Et puis on l'a appris plus tard, on était là, ah bon, mais... Et puis aussi le lait de jument. Alors c'est très fort, mais si on en boit petit à petit, ça passe.
Oh,
rejoignez sur Radio La Pourdine. Nous sommes avec Guillaume, Théo et Guillaume pour parler d'un voyage qui s'est déroulé de février à juillet 2023, avec un voyage Orient-Odyssée ou Odyssée-Orient, 18 000 km pour rallier le Cambodge. Alors nous voilà arrivés au Cambodge maintenant. Combien de temps vous êtes resté au Cambodge et qu'est-ce que vous souhaitez nous faire partager sur ce pays et sur sa culture?
Nous sommes restés une dizaine de jours, deux semaines au Cambodge. Donc nous sommes arrivés enfin à l'association pour un sourire d'enfant qui était l'objectif final. Donc là, nous avons été accueillis par les scouts de l'association, qui ont donc 200 ou 300 scouts là-bas, donc par les chefs scouts qui nous ont accueillis, qui nous ont fait découvrir l'association, qui nous ont fait visiter, qui nous ont montré un petit film. Et donc on a été très touchés de pouvoir voir de nos yeux l'association pour laquelle nous avions parcouru 18 000 km, de voir tous ces enfants qui sont sortis de la misère grâce à cette association, grâce à ce couple de Français qui a fait un travail incroyable. Il y a un très beau film qui s'appelle Les Pépites qui montre tout ce qu'ils ont fait là-dessus. Et voilà, ça a été assez incroyable de voir l'histoire de ce pays qui a été évidemment très fort marqué par les Khmers Rouges et qui a été très blessé. Et donc cette reconstruction se fait petit à petit. Et pour un sourire d'enfant, est d'une énorme aide pour réussir à reconstruire le pays et surtout la jeunesse du pays et l'avenir.
Comment on communique au Cambodge? Parce que la langue, ça ne doit pas être évident.
Alors effectivement, le Khmer, c'est pas dans nos, c'est pas une langue qu'on a appris quand on était jeune. Mais il se fait que ce qui est assez étonnant dans ce pays, c'est qu'il y a une simplicité dans la communication et surtout beaucoup de respect dans la manière dont les personnes s'expriment les uns avec les autres. Et pour ça, ça nous a beaucoup marqué. Par exemple, pour se dire bonjour, eh bien, on joint les mains comme ça, on abaisse la tête. Et en fonction de si la personne a un statut un peu plus impressionnant ou quoi, alors on se mettra plus la tête baissée ou bien on lève les mains. Donc tout ça, c'est tout simple, mais un simple geste, en fait, dit énormément des marques de respect que les personnes peuvent se témoigner entre elles. Et puis pour ce qui est du Khmer, ben, alors Pour un sourire d'enfant est une association créée par des Français, donc certains jeunes peuvent avoir des cours de français, même si c'est l'anglais qui est quand même principalement enseigné. Donc nous, on pouvait s'exprimer avec les jeunes en anglais. Et puis effectivement, il y a aussi le langage scout, puisque nous, on a été scout aussi. Donc ça, c'est assez génial de voir que le langage scout est universel. Donc là-dessus, on s'est tout de suite compris par rapport, je sais pas, au symbole scout, par rapport aux mises en scène et tout ça. Ça a été assez facile de se faire comprendre.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce pays, le Cambodge, sur ses habitants, sur sa culture ?
Ce pays nous a fortement marqué et nous avons tout simplement adoré tout ce qui le compose. Sa nature est magnifique. C'est une culture, vraiment, on sent que c'est un pays qui a vécu beaucoup, beaucoup d'événements très marquants. Et c'est un peuple qui est respectable, qui est, comme on l'a dit Théo, c'est des personnes qui ont beaucoup de respect pour les uns envers les autres. Et on souhaite à tout le monde d'aller visiter ce pays une fois dans leur vie.
Vous avez parlé des deux associations que vous avez aidées donc, à travers ce périple de 18 000 km pour vous rendre de France jusqu'au Cambodge. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que vous avez apporté à ces deux associations ?
Alors, pour la première association, il s'agit d'une lettre, un sourire. Pendant tout le voyage, donc, on était en relation épistolaire avec les personnes âgées. Donc, ça impliquait que toutes les semaines, on écrivait des lettres, on faisait des petites vidéos qu'on envoyait aux personnes âgées et elles nous répondaient. Donc, il y avait une vraie relation qui s'est formée, d'une richesse absolue, puisque en même temps, on leur rappelait certains souvenirs de voyages qu'ils avaient pu faire et puis eux nous donnaient aussi des conseils pour notre aventure. Donc c'était vraiment d'une belle richesse. Et puis effectivement, quand on revient à Bruxelles, on les rencontre, on les revoit, on échange sur notre voyage. Et puis l'idée, c'est de continuer à œuvrer pour cette association. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de Pour un sourire d'enfant, donc on avait sur nos différents réseaux des liens qui renvoyaient à l'association Pour un sourire d'enfant avec toute une page qui permettait de faire des dons en ligne défiscalisés pour l'association Pour un sourire d'enfant. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire de la promotion et d'être des espèces d'ambassadeurs permettant à Pour un sourire d'enfant de rayonner à travers notre voyage. notamment en Belgique, où l'association est un petit peu moins connue, et d'arriver sur place. Alors, initialement, on devait venir avec la voiture et la donner à l'école de mécanique de pour un sourire d'enfant, puisque c'était une voiture intéressante, un vieux moteur, et donc ça pouvait aussi voilà, être assez éducatif, déjà pour nous, parce qu'on n'était pas forcément mécanicien avant de partir. Malheureusement, on n'a pas pu donner la voiture, mais donc on les a quand même rencontrés sur place. L'idée, c'est de continuer à œuvrer aussi pour cette association. L'année prochaine, il y a donc Marie-France Despalières qui va se rendre notamment en France pour sa tournée annuelle et en Belgique. Et donc, on sera là pour être en amont, préparé, organisé. Et puis, par rapport aussi à pour un sourire d'enfant et une lettre un sourire, on a comme projet d'écrire un livre, un espèce de carnet de voyage qu'on publiera l'année prochaine, et de réaliser un documentaire, notamment via Guillaume, qui est donc dans une école de cinéma. Et pendant tout le documentaire, évidemment, on parlera des deux associations et d'en faire la promotion. Et à la sortie du documentaire, d'inviter les associations pour pouvoir justement témoigner de leur impact et de ce qu'elles peuvent faire au quotidien.
Donc on n'a pas fini d'entendre parler d'Odyssée Orient.
C'est exact.
Vous avez 25 ans, c'est ça, les trois. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie d'homme, dans votre vie professionnelle, ce type d'expérience?
Je pense que ça m'a appris à avoir beaucoup de recul, un certain détachement par rapport à certaines situations angoissantes, stressantes, à réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand, de différent, que le monde, on a rencontré tellement de cultures différentes, de choses incroyables, mais aussi de situations stressantes, et qu'il faut réussir vraiment à relativiser, à respirer et se dire on va réussir à avancer, tout va bien se passer. Voilà, moi je suis quelqu'un de très stressé à la base et ça m'a vraiment permis, quand on doit attendre 8 heures à une frontière de passer et qu'on est un peu à cheval sur les horaires, de se dire nous dans notre monde on est le bus il passe à telle heure et il faut pas le rater, là-bas le bus il passe quand il passe et on l'attend, et ça apprend la patience et le relâchement, et je pense que ça a été très bénéfique sur ces aspects-là pour moi.
Même question, Théo.
Alors, d'une certaine manière, ce voyage était un peu initiatique. Comme je disais, arrivé à 25 ans, on sent qu'on est à un tournant dans notre vie. C'est juste avant la vie professionnelle, et donc on avait vraiment besoin de ce temps. Moi, j'y vois deux choses, deux relations que j'ai vraiment travaillées. La première relation, c'était celle avec mes coéquipiers, et donc plus généralement la relation avec les autres. Donc ça a été vraiment un vrai travail de fond, puisque les autres ont permis aussi de me faire grandir, notamment via mon comportement, via ce que je pense. Et puis évidemment la relation à soi-même, ça a été très important aussi. Il y a eu pas mal de temps de désert, donc pendant ce voyage, évidemment on était à trois, mais il y avait aussi des moments où on arrivait à s'extraire tout seul. Et je pense par exemple en Géorgie, où on est chacun parti pendant 4-5 jours tout seul dans la montagne. Ça a été une expérience très forte, parce que ça nous a vraiment permis de nous recentrer. Et parce que dans un monde où on est tout le temps, les réseaux sociaux, les machins, les événements, les soirées, les amis, les copains, les activités, parfois on a un peu l'impression de s'oublier. Et là, cette question du recentrement, de vraiment d'habiter pleinement sa personne et se redécouvrir, c'est quelque chose qui parfois est très difficile, parce qu'on n'a pas envie de se voir face à nous-mêmes. Et là, on n'avait pas le choix. Et on se l'est un peu imposé, et au final, on est ressorti grandi, notamment aussi par rapport aux épreuves qu'on a vécues entre nous et même personnellement, que ce soit parce que les proches sont loin ou parce qu'il y a des moments plus difficiles. Mais au final, avec ce qu'on a vécu...
Il y a eu des moments de découragement ?
Alors, découragement, jamais. On n'a jamais voulu abandonner, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. En revanche, il y a eu deux moments de crise, si je puis me permettre d'utiliser ces mots, à savoir, à chaque fois, dans des zones de transition, donc juste après l'Asie, juste après l'Europe, pardon, avant l'Asie centrale, et puis juste avant l'Asie du Sud-Est, entre nous et aussi par rapport à nous-mêmes, ça a été des moments compliqués, mais on a toujours réussi à s'en sortir, et notre amitié n'en est sortie que plus belle et plus forte.
Guillaume, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Un peu pareil que mes deux compères, c'était une sorte de transition à l'âge adulte que nous avons fait à travers ce voyage, et aussi, j'ai aussi compris qu'en fait, les amitiés sont quelque chose qui ne sont pas acquises malgré le temps qu'on a passé ensemble auparavant, et c'est quelque chose qu'il faut cultiver et toujours remettre d'actualité. Notre amitié a été mise à l'épreuve pendant tout ce voyage, parce qu'au début nous pensions que le voyage allait être compliqué au niveau administratif, mécanique, mais finalement un des plus gros problèmes a été de rester amis tout au long du voyage malgré tous les problèmes que nous avons rencontrés, et finalement on s'en est sorti en étant encore plus amis que jamais. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué.
Alors j'ai envie aussi de vous demander, parce que vous vous exprimez sur une radio chrétienne, donc j'ai envie de vous demander un peu quelle était la place des religions ou de la spiritualité dans votre périple.
Alors, c'est vrai que tout au long du voyage, on s'est vraiment mis sous le signe de la providence. On a vraiment voulu, voilà, se laisser guider par la providence. On a souvent été accueillis par des communautés religieuses, souvent chrétiennes. Et donc, c'est vrai que y a eu cet aspect a été assez fort parce qu'on a senti vraiment on a eu des moments très forts dans ces communautés chrétiennes où on a senti vraiment tout le travail qu'elles font, qui n'est pas toujours facile. Par exemple, dans les communautés chrétiennes dans des pays musulmans, je pense aux sœurs de Mère Teresa à Almaty, par exemple, où elles sont que trois dans un petit, enfin, elles ont un dispensaire à gérer, c'est vraiment pas facile. Et pourtant, elles font un travail incroyable, elles sont au service, elles sont. Enfin, ça a été des moments très forts. On a été aussi accueillis par voilà, des bouddhistes, par des musulmans, évidemment. Mais c'est vrai que la place de la religion a été importante. Enfin, nous sommes tous les trois chrétiens et ça a été aussi un long voyage intérieur, des moments de désert comme ça, évidemment, ça ouvre à la spiritualité, ça nous fait réfléchir. On a eu des très beaux moments de prière, je pense, et voilà.
Oui, parce que on a oublié de le mentionner, mais une de nos inspirations pour ce voyage était Guy de Larigaudy, donc un scout qui, dans les années 30, avec un de ses confrères scouts, a fait à peu près le même itinéraire, donc Paris-Saïgon en vieille Renault. Et donc, lui aussi avait exprimé ce besoin de se retrouver aussi dans la prière, de faire confiance aussi. Et donc, une de la troisième relation que je n'ai pas encore exprimée, mais vous me faites bien de me poser la question, c'est la question de la relation. Donc, je parle de la relation aux autres, la relation à soi, et évidemment, il y a la relation avec Dieu. Donc, cette relation transcendantale qu'on peut avoir, et qui, pendant tout le voyage, a été une certaine colonne vertébrale pour nous permettre de tenir. Et notamment, par rapport à toutes les communautés chrétiennes, les prêtres qu'on a rencontrés, les sœurs. Ça nous a vraiment renforcés et ça nous a aussi donné l'espoir de se dire, ben voilà, si ces personnes-là vivent dans des déserts spirituels, qu'elles soient une présence dans ces endroits vides parfois de sens ou de religion chrétienne, et ben nous, ça nous a encore plus renforcés dans notre foi. Donc ça a été très important de croiser aussi pour nous, de pouvoir entretenir cette relation à Dieu, parce que parfois, pendant le Kazakhstan, pendant des milliers de kilomètres, pendant quelques jours, on n'avait pas accès à la messe, à une église. Et donc le fait de se retrouver dans une petite chapelle au milieu de l'Ouzbékistan, ben c'était quelque chose, c'était une respiration.
arrive presque à la fin de cet entretien. Avant de dire de nouveau un mot sur les deux associations que vous avez soutenues, j'ai envie de vous demander à chacun s'il y avait un moment de ce périple que vous souhaiteriez nous partager, ce serait lequel ?
Un mot c'est, pour Sauvage, c'est malgré toutes les épreuves et les obstacles que l'on peut rencontrer, toujours garder le sourire et toujours voir le bon côté des choses. Et quand quelque chose de mauvais nous arrive, essayer de voir pourquoi ça nous arrive et comment en tirer quelque chose de positif.
Un moment, Théo, qui vous a particulièrement marqué, que vous souhaitez nous partager ?
Alors j'ai une mini anecdote, je vais essayer d'être concis, mais en Géorgie, donc je vous ai expliqué, on était partis pendant 5 jours chacun dans les montagnes. Pour ma part, j'ai été donc dans des espèces de hautes montagnes géorgiennes, parce que c'est un pays très montagneux, et le fait de se retrouver tout seul pendant 4-5 jours, eh ben, franchement, je ne l'avais pas expérimenté comme ça, et à la fin, on se retrouve même à parler avec soi-même. Mais le dernier jour, j'ai expérimenté quelque chose de très fort, puisque j'ai eu très peur. Il y a eu des énormes orages, et j'avais eu la merveilleuse idée de dormir sur une espèce de montagne à 2000 mètres d'altitude, tout seul avec ma petite tente. À 4 heures du matin, je me suis fait réveiller par les éclairs, mais qui tombaient vraiment littéralement à côté de moi. Et j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Je me suis dit, oulala, là, t'as vraiment fait une bêtise. Et donc, j'ai couru avec ma tente et je me suis réfugié dans un monastère orthodoxe. Et il se fait que les portes étaient ouvertes, alors que la veille, j'étais passé devant, les portes étaient fermées. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est la providence. Et je me suis donc réfugié dans cette petite église orthodoxe. Et au matin, les prêtres orthodoxes, il se fait qu'en fait, c'était la veille de Pâques pour les orthodoxes, m'ont accueilli, et toute la matinée, l'après-midi, on a commencé à échanger, ils m'ont donné des vestes, ils m'ont donné de la nourriture, et en fait, pour moi, ça a été quelque chose de très fort, parce que j'ai un peu vécu une espèce de passage de l'ombre à la lumière, pour utiliser des mots un peu forts, mais ça a été vraiment ça, d'une certaine manière, et donc j'en tire peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la confiance, et de garder ce sourire intérieur, comme Guillaume disait, parce que c'est très important de garder ça en soi. Et même si, effectivement, il y a des zones d'ombre, comme je le disais tout à l'heure, c'est très, très important de garder ce sourire intérieur qui va nous permettre de faire jaillir plein de choses pour la suite.
Un moment marquant, Guillaume ?
Un moment qui a été extrêmement marquant, je pense que c'était à Phnom Penh, quand on a été sur la décharge de Phnom Penh. Donc, on a eu cette expérience qui était absolument bouleversante, où on a vraiment compris comment Christian Despailières, le sentiment qu'il a dû avoir quand il a vu ses enfants, comme nous on a pu voir des enfants donc qui jouent dans les déchets, qui y a une espèce d'eau noire partout sur le sol où on marche vraiment dans la crasse, et il y a des enfants qui vivent là, qui travaillent là puisqu'ils récupèrent des déchets pour gagner un peu d'argent. Et donc je pense que ça a été extrêmement fort parce que ça nous a montré réellement ce pourquoi nous étions partis, donc pour un sourire d'enfant évidemment, et voir quel est leur combat réel, et donc voir cette décharge immense. C'est vraiment, on peut pas s'en rendre compte, je pense, tant qu'on n'y est pas, on n'est pas dessus. C'était très fort, et ça nous a vraiment renforcé dans cette envie de continuer à promouvoir cette association.
Deux associations donc que vous avez soutenues, Pour un sourire d'enfant et Une lettre, un sourire. Rappelez-nous un peu les objectifs de ces associations.
Donc Pour un sourire d'enfant, basé au Cambodge, l'idée est de sortir les enfants de la misère des bidonvilles et des décharges. Il y a des grandes décharges à Phnom Penh et des enfants vivent là-dedans et vendent ce qu'ils retrouvent, souvent dans une grande misère. Et donc cette association va chercher les enfants sur place dans la décharge de Phnom Penh et leur offre une éducation et un emploi et une super formation professionnelle. Donc de les sort de la misère pour leur donner un métier. Une lettre, un sourire, c'est une association française qui a été créée à Lille dans les années 2020 pour renouer avec les personnes âgées et donc construire un lien intergénérationnel entre les jeunes générations et les générations plus anciennes et briser l'isolement des personnes âgées dans les EHPAD après le Covid.
Oui, et donc si vous souhaitez, si les auditeurs souhaitent soutenir ces deux associations, il est possible de se rendre sur le site Une lettre, un sourire pour rédiger une lettre. Et pour un sourire d'enfant, il est possible de parrainer des enfants aussi en se rendant sur le site.
Un grand merci à tous les trois, Guillaume, Théo et Guillaume, de nous avoir parlé donc de votre périple jusqu'au Cambodge, 18 000 km pour soutenir donc ces deux associations Pour un sourire d'enfant et Une lettre, un sourire. On attend avec impatience le carnet de voyage et le film.
Oui, on vous tiendra au courant. Et vous serez invité à la projection, bien entendu.
Un grand merci à tous les trois. Et puis je remercie également Jean-Paul Allot, journaliste à la Semaine du Pays Basque, par qui nous avons pu réaliser cet entretien et partager donc avec ces trois jeunes sur ce beau périple jusqu'au Cambodge. Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup.